Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine et pour ce direct, notre toile est tissée dans une lumière mystérieuse et traversée par le fil fantôme d'une passion que nous nous apprêtons à démêler pour vous. En fin d'émission, nous vous proposerons quelques petites idées de sortie pour la semaine, mais tout de suite on va parler de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et on démarre tout de suite avec un petit extrait de la bande-annonce.
Her arrival has cast a very long shadow.
She's barely looked at you this evening, has she?
May I warn you of something? My brother can feel cursed, that love is doomed for him.
I don't like the fabric.
Maybe one day you'll change your taste.
Maybe I like my own taste.
Just enough to get you into trouble.
Perhaps I'm looking for trouble.
Stop!
There is an air of quiet death in this house.
You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game.
What game? What precisely is the nature of my game?
All your rules and your clothes and all this money and everything is a game.
This was an ambush.
Stop.
Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life?
Stop it!
Sarah, Colin, Marthe, bonsoir.
Bonsoir, Rémi.
Alors, je résume très très rapidement l'intrigue. Je pense que ce que nous en dirons suffira à vous donner une bonne idée de ce qui se passe. En tout cas, on est en présence de deux personnages qui se rencontrent. Reynolds Woodcock, couturier, grand couturier londonien du milieu du XXe siècle, homme extrêmement rigide, rongé par ses manies et qui se construit une sorte de tour d'ivoire au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, quand on voit cet atelier, cet immeuble atelier qui constitue son seul véritable lieu de vie. Et puis dans l'une des rares échappatoires qu'il s'offre, il rencontre Alma, une jeune femme qui devient l'une de ses multiples égéries, mais celle qui va réussir à l'accaparer, qui va réussir à percer la fameuse tour d'ivoire. Et c'est cette rencontre donc que filme Paul Thomas Anderson pour son 8e long métrage. Je n'en raconte pas beaucoup plus, je me tourne rapidement vers vous pour connaître une première impression sur ce film.
Ben, j'ai l'impression que c'est moi qui dois commencer à parler. Alors, en guise de première impression, ce n'est pas forcément la meilleure, je pense, parce que j'ai trouvé que c'était un très beau film. Par contre, de là à dire qu'il était bon, il y a tout un pas. Pour moi, le scénario ne valait pas du tout la qualité esthétique en fait, de l'image.
Alors, on y reviendra.
J'ai trouvé que c'était un film beau et bon. Qui m'a beaucoup plus convaincue que ce que je pensais en y allant. Et voilà, j'ai trouvé plein de choses dans ce film et je ne m'attendais pas à y trouver autant.
Alors je suis assez d'accord avec ce second avis plus positif que le tien, Sarah. Donc on est d'accord en tout cas pour dire que c'est un très beau film. Et je trouve que en effet, en plus du scénario qui est assez touchant, en tout cas j'ai trouvé dans cette relation amoureuse avec une très belle mise en scène des rapports de pouvoir et d'influence aussi, avec des jeux qui touchent un peu au macabre avec toutes ces histoires d'empoisonnement, enfin qui sont voilà. Mais enfin oui, avant tout c'est l'esthétique, je suis d'accord, en tout cas, qui frappe le plus, oui.
Bah alors moi, bizarrement, enfin l'esthétique est magnifique et c'est parfaitement méprisé. Parfaitement maîtrisé. Et d'autant plus que Paul Thomas Anderson aura été son propre directeur de la photo sur ce film, c'est lui qui signe la photo. Moi, c'est pas tant le scénario qu'en tout cas le message ou la chose qui est mise en scène par ce film qui m'a particulièrement frappé et qui, au-delà d'une esthétique particulièrement léchée, par la rencontre de deux acteurs et d'un réalisateur, réussit à nous mettre entre les mains un objet qui justement n'est pas narratif, qui ne se limite pas à son scénario ou à son esthétique et qui est vraiment une espèce de truc qu'on ne sait pas exactement comment prendre, est quand même profondément perturbant, et qui, à défaut d'être bouleversant, et incroyablement efficace. C'est un petit peu ma grille de lecture du truc, on va dire. Première lecture évidente du film et qui est celle à laquelle il faut peut-être pas s'attacher parce que je pense que c'est une erreur d'en rester là, mais c'est malgré tout important. C'est qu'évidemment, Paul Thomas Anderson met en scène un créateur et on se doute bien qu'il est quelque part lui-même mis en scène dans sa création. Son cinéma, on l'aura vu, est quand même extrêmement maniaque. On reviendra sur la forme, les enchaînements, la fluidité de la caméra et justement les moments où cette fluidité se rompt. Enfin, il y a un travail très très maniaque chez Paul Thomas Anderson dans ce film et dans les autres. Et évidemment, il se met en scène lui-même. Je trouve néanmoins, et vous me direz si vous êtes d'accord, que il va bien plus loin que les codes de cette histoire un peu plan-plan de l'artiste qui trouve une jeune muse et ensuite on en fait un film pendant une heure et demie. Et il prend le contre-pied de ça, déjà en nous donnant sur le personnage principal le regard d'Alma. Et cette dynamique de la dévoration qu'apporte ce personnage-là. Bon, là, j'anticipe un peu sur la suite.
Oui, par rapport à cette maniaquerie d'Anderson, je suis tout à fait d'accord, mais c'est ce que j'apprécie énormément, c'est les enchaînements, en particulier des images, parce que je trouve que ce film, c'est en grande partie une série de tableaux, hein, on pourrait vraiment dire. Et notamment, il y a un passage à un moment avec un enchaîné entre une chute de neige et une scène dans l'escalier, qui est particulièrement belle et qui m'a beaucoup frappée. Et ça rappelle un peu l'esthétique de Downton Abbey, j'ai trouvé.
Alors, au sujet de la chute de neige, la scène avec la chute de neige qui se poursuit dans les escaliers, j'ai pas beaucoup aimé ça en fait.
Oui, moi, c'est le passage où vraiment je me suis dit, mais que fait-il ? Et c'est le seul moment où je me suis vraiment demandé ce qui se passait, si ça allait partir sur un truc complètement psychédélique. Parce qu'en fait, ces personnages, ils sont. Enfin, je pense que le terme maniaque, c'est vraiment un bon terme parce qu'ils sont maniaques, mais presque dans un sens où ils sont. C'est des fous furieux dans leur robe et dans leur costume très étroit. Enfin, c'est un film un peu. Cocotte minute qui explose pas.
Et justement, et c'est là que la fluidité des images fait pleinement de sens, c'est-à-dire que à force que la caméra nous fasse glisser à travers le film, on ressent aussi cette impression d'être dans quelque chose de très très lisse qui glisse parfaitement, mais nous-mêmes enfermés dedans. Et le film nous met nous-mêmes dans la même position un petit peu que ces personnages enfermés dans toute leur rigidité. À quelques ruptures près, entre autres ces scènes incroyables dans une voiture que l'on voit depuis l'extérieur du pare-brise et où il y a un très léger effet de distorsion sur les bords de l'image, où on a vraiment l'impression qu'il y a cette espèce d'œuf de verre qui serait le pare-brise avec les deux personnages derrière et où là d'un coup il y a une espèce de libération d'énergie où l'image tressaute, où on entend le grondement de la voiture derrière, et il y a quelques scènes comme ça où d'un coup cette fluidité se rompt et où on a la sensation qu'il y a quelque chose qui se libère brutalement.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tu parles de la rigidité de tous les personnages. Donc, évidemment, la rigidité, je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne le créateur. Mais Alma, au contraire, je lui trouve une certaine souplesse, justement. Enfin, pourquoi rigidité ?
Bah alors, justement, c'est là qu'il faut se poser la question du personnage d'Alma et peut-être de sa place, qui n'est pas une place d'élément déclencheur dans ce film. C'est là aussi Donc il y a un risque d'un scénario très très, c'est ce que je disais, très très patriarcal aussi dans sa conception, avec le vieux créateur qui trouve une jeune muse et elle vient, elle déclenche un truc et puis ensuite on regarde ce qui se passe. Et là vraiment pas, c'est ce personnage intervient et c'est ce personnage là qui va agir pendant toute la durée du film. Je trouve que c'est bien marqué par les deux scènes de séduction auxquelles on assiste dans ce film. On a une première scène dans l'hôtel, le moment où ils se rencontrent, qui est volontairement exagérée, qui est profondément ridicule, et d'ailleurs les personnages sont eux-mêmes ridicules l'un par rapport à l'autre et par rapport à nous dans cette scène. Par contre, le film se termine presque par une deuxième scène de séduction qui là donne tout son sens au film et, sans évidemment dévoiler ce qui s'y passe, nous met vraiment en place de deux personnages qui ne se montrent plus comme étant des espèces de pantins désarticulés, mais disons, enfin qui montrent leur appétit. Je pense que le mot d'appétit va quand même falloir le prononcer à un moment dans ce film. Et cette dynamique de dévoration absolue qui les unit et leur permet de construire une histoire et puis pour nous un film.
Mais je trouve que c'est d'autant plus vrai que c'est pas un élément déclencheur, ce personnage, Alma, que tout de suite, on sait qu'elle s'inscrit dans une longue lignée de muses invitées au petit déjeuner. Et, exactement. Et du coup, il y a une tension sous-jacente au film qui est vraiment là tout le temps, où on sait qu'elle est sur la sellette. Enfin, on sait que à n'importe quel moment, finalement, on sait que la sœur, on n'en a pas encore parlé, mais moi, je trouve que le créateur est vraiment en duo avec cette sœur. Je trouve que leur relation...
Qui tient un rôle d'intendante dans cette maison de couture, en théorie, mais qui est un petit peu cette espèce de surmoi omniprésent qui suit son frère jusque le premier soir où son frère ramène Alma chez eux. Et là, d'un coup, alors qu'on s'attend à voir une scène d'amour, il se met à prendre ses mensurations pour en faire une robe, pendant que la sœur débarquée d'on ne sait où note toutes ses mensurations sur un carnet. Et vraiment, là, partout, et dans cette scène qui là aussi est très évocatrice, le Reynolds qui essaye d'enfermer Alma dans des chiffres et manifestement n'y parvient pas, ça donne aussi une lecture à tout le film. Et donc, voilà, on a cette sœur qui verrouille tout jusqu'au moment où peut-être quelque chose va lui échapper.
C'est vrai que dans cette scène, j'ai trouvé que le malaise était absolument total, aussi bien pour le personnage que pour le public, parce qu'en effet, je pense que aussi bien Alma que le public, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une scène de séduction, une scène d'amour ou quelque chose comme ça. Et en fait, l'érotisme est complètement sapé par cette espèce de, enfin par cette scène où il prend voilà ses mesures comme ça sous le regard pas tout à fait inquisiteur, mais enfin méticuleux, on va dire, de la sœur. C'était malaisant, cette scène.
Justement, j'aimerais bien revenir sur cette scène, en fait, parce que c'est cette scène qui était au tout début du film donnait vraiment envie d'avoir la suite du film. Et en fait, c'est dans la suite que j'ai été très déçue, parce que je me suis dit, c'est un réalisateur qui est capable de nous surprendre, de nous rendre dans le malaise et de saper des codes assez conventionnels. Et puis, bah, dans la suite...
La suite ne te surprend pas, toi.
Bah, non, mais la suite, bon, d'accord, il y a le passage, je ne vais pas spoiler, mais il y a le fameux passage où on peut parler d'appétit, qui est surprenant, mais en soi, ça vire un peu en eau de boudin, quoi.
Encore un petit jeu de mots. Mais justement, pour moi, alors... On parle d'appétit et de bouffe depuis le début, parce que la nourriture tient quand même une place primordiale dans ce film, mais ne se limite pas à cette dernière scène de séduction où tout passe entre une espèce de trio de regards entre nos deux personnages et une omelette, pour le dire comme ça, qui est filmée en gros plan abondamment et qui est lourde de signification aussi en termes de désir, tout simplement. Mais la nourriture ne se limite pas à ce rôle d'artefact dans cette dernière scène, elle traverse le film, on a des scènes de repas en permanence, des repas souvent pantagruéliques. On pense à leur première rencontre. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui commande un énorme petit déjeuner qu'elle va retenir par cœur et lui servir comme ça après avoir trébuché en arrivant. Et ça en dit aussi long, peut-être pas tant sur le processus créatif lui-même que sur la façon dont les besoins du corps, en quelque sorte, vont s'opposer à la création et vice-versa. Et le corps, et puis peut-être tout simplement l'amour. Et là où ce film ose quelque chose d'assez intéressant, je trouve, c'est qu'il tient un discours à la fois assez courageux et assez décomplexé sur l'amour lui-même, et sur les modalités, aussi bizarres soient-elles, de son existence, et sans s'emmerder à utiliser toutes les circonvolutions scénaristiques que les réalisateurs utilisent généralement pour traiter de ce sentiment quand même particulièrement casse-gueule au cinéma. Et là, on se retrouve avec un réalisateur qui rentre droit dans le sujet et qui décide, en prenant un cas particulièrement douteux, malsain, bizarre, qui finalement tient un discours qui, je trouve, est particulièrement efficace.
Bah alors, en termes de discours efficace, pour en avoir un peu discuté avec May, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs interprétations possibles de cette relation amoureuse et malsaine entre Alma et Reynolds. Moi, il y a une question que je me pose, et du coup, je suis pas sûre que le discours soit si efficace que ça, c'est est-ce que Alma est complètement soumise, ou est-ce que c'est elle qui, derrière toutes les apparences, mène le jeu ? Et c'est, je pense que c'est une question qui reste ouverte, mine de rien.
Mais
et
non.
Quand on...
non,
non,
mais
pas,
non.
Je... Mais
si, si une question reste ouverte dans ce film, c'est les personnages savent-ils ce qu'ils font et le maîtrisent-ils tous les deux, ou bien sont-ils complètement enfermés dans leur personnage lui-même. Mais ce film nous montre quand même deux personnages qui, derrière leur joute verbale et leur petit combat de coq, sont quand même deux failles, deux vides qui cherchent à se combler par la voie très symbolique de la nourriture et puis par cette relation amoureuse qui ne sera d'ailleurs jamais montrée de façon charnelle à part deux baisers et un moment assez intéressant où Reynolds prend rapidement dans sa bouche l'orteil d'Alma. Et là aussi, il y a quelque chose, lorsqu'il se réveille le lendemain du jour où il a été malade, je réponds à votre regard circonspect. Oui, et là aussi, tout passe par une espèce de simulacre de dévoration.
C'est un peu violent comme terme, en l'occurrence, je trouve, dévoration.
Non, mais... bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la question est plus de savoir si ils sont contraints par quelque chose qui les dépasse, ou si ils sont parfaitement conscients et libres de faire ce qu'ils font depuis le départ. Et là, il y a une vraie question qui se pose, mais en revanche, c'est à aucun moment l'un ou l'autre mène... Enfin, je veux dire, justement, cette scène qui est à la fin du film, mais qui est centrale et dont on parle depuis le début sans vous la raconter, montre bien qu'on a quand même deux personnages parfaitement conscients de ce qu'ils font et qui, si chute il doit y avoir, l'assument parfaitement.
J'aurais aimé juste rebondir par rapport à la question de Sarah.
Il nous reste peu de temps.
Très rapidement. Par rapport à cette histoire un peu de domination, de qui mène la danse entre les deux personnages, je pense que ça fonctionne dans une sorte d'alternance. Puisque quand Reynolds va bien, c'est lui, on dirait, qui est un petit peu en position de domination. Mais elle, avec son jeu sur ce qu'elle fait avec la nourriture et cette dimension très... qui participe de la coloration peut-être un peu malsaine, on va dire. Je trouve que ça joue justement... l'alternance, en fait.
Oui, enfin bon, la femme qui fait des omelettes pour dominer l'estomac de l'homme, c'est pas...
Mais c'est pas que... Enfin, ça le rend... Enfin, bon,
c'est quand même
spoiler,
nettement
c'est pas
plus...
une omelette normale.
Il y a beaucoup trop de mauvaise foi dans ce studio. Nous n'aurons pas le temps de parler de la photo qui est magnifique. Et là, je pense qu'on s'accordera de la musique qui est particulièrement réussie. Oui. Je pense qu'on peut prendre 30 secondes pour parler du jeu des acteurs. Daniel Day-Lewis est décidément l'un des plus grands acteurs que cette planète ait porté. Et je pense qu'il le montre à nouveau dans ce film. Moi, je ne l'avais jamais vu que dans l'insoutenable légèreté de l'être. Donc, il y a de nombreuses décennies, il a pris un coup de vieux, mais il est toujours aussi incroyable dans ce film-là.
Et élégant.
Il y a toutes ces scènes où, justement, il fait apparaître les failles du personnage. Cette scène où il titube pendant une minute en cercle autour d'un mannequin avant de s'effondrer sur lui. Mmh. Il y a une maîtrise absolue du personnage dans son jeu. Et Vicky Cripps, qui joue Alma, lui donne une réplique qui est parfaitement à la hauteur.
Oui. J'ai été très impressionnée par cette dernière, d'ailleurs, plus que par le premier.
Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Alors, 3 contre 1, je pense que tu as perdu. Donc, chers auditeurs, il faut aller voir le film.
Il y a beaucoup de mauvaise foi.
La régie approuve. Hein. Donc, voilà. Et je n'ai plus le temps de vous annoncer les sorties de la semaine. Je mentionne juste très rapidement l'avant-première de Radia de Nabil Ayouch aux Lumières Terreau, le festival Écran Mixte, festival de cinéma queer qui a lieu actuellement sur Lyon. Et c'est l'occasion de découvrir un cinéma parfois marginal, mais absolument pas mineur lors de ce festival. De nombreuses ressorties avec aussi à l'Institut Lumière 3 nouvelles rétrospectives qui vont me faire manquer mon agrég, à savoir Jacques Prévert, scénariste, une rétrospective, une intégrale de Dreyer et une rétrospective sur les premiers films de Wenders. Voilà, d'étoile plein les yeux, c'est terminé pour ce 84e numéro, si je ne me trompe pas. Cette semaine, c'était Rémi Cerda, Marc Buaillon, Sarah Andria et Colline Lafontaine avec Félix Barancy à la régie. Et à 20h pile, je rends l'antenne. 19h30, tant pis. Presque.
Merci beaucoup pour cet épisode animé d'étoiles plein les yeux. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, mais on a gagné, voilà.
Bon, place à présent à votre émission de lecture à voix haute. Les yeux ont des oreilles, mais ici, âme sensible ou dépressive, s'abstenir.